Bonsoir à tous. Ah, ça discute. Bonsoir à tous. J'essaye de... Alors, ne vous fiez pas à cet horaire qui est complètement une fiction. Il est 18h32, donc tout va bien. Mais je vais essayer de commencer à peu près à l'heure pour vous laisser le temps, suite à la conférence, d'avoir votre petit sas de discussion de 19h30 à 20h30 avant le spectacle. Et je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir autour de ce travail de Trisha Brown. D'habitude, Nadège fait l'introduction, alors je me sens un peu démunie. Elle n'est pas là ce soir, donc je ne vais pas faire véritablement d'introduction, si ce n'est dire que je suis ravie de partager avec vous ce temps sur une grande dame de la danse postmoderne américaine. Et j'ai choisi, une fois n'est pas coutume, de travailler la conférence autour de son parcours biographique pour comprendre, parce que je pense que c'est ça qui peut être intéressant pour vous ce soir, d'où est-ce qu'elle est partie dans ses recherches autour de la danse pour en arriver aux pièces que vous allez pouvoir découvrir ce soir, puisque ce soir c'est un programme de trois pièces des années 2000. L'amour au théâtre, Geometry of Quiet et Groove and Countermove, qui sont donc un programme, vous allez avoir la chance de pouvoir voir un programme de trois pièces, qui sont des pièces de la, je dirais, des plus récentes par rapport à nous, et je trouvais peut-être pertinent qu'on s'intéresse ce soir à qu'est-ce qui a fait naître cette construction de la danse chez Trisha Brown, pour que vous puissiez ensuite la découvrir sur scène. Dès ses premiers essais, Trisha Brown va poser au cœur de son activité dansée deux questions qui sans cesse l'animeront, deux questions fondamentales qui sont: qu'est-ce que je ne connais pas et quelle structure chorégraphique donner à cette question. L'idée, c'est qu'on essaye d'explorer certaines de ses réponses ce soir. Par son parcours et par les enjeux artistiques de son travail, Trisha Brown est donc une personnalité emblématique de la post-modern dance, un courant artistique et esthétique qui s'est développé aux États-Unis durant les années 1960 et 1970. Alors, les post-modernes sont en rupture avec deux histoires, on va dire, en rupture avec l'histoire du ballet classique, qu'ils considèrent comme trop élitiste, et en rupture aussi avec l'histoire de la modern dance, de la danse moderne américaine, qui pour eux n'a pas tenu ses promesses de fonction sociale et de fonction artistique de la danse. C'est-à-dire que pour eux, pour ces postmodernes, la danse moderne n'a pas su libérer le corps, n'a pas su démocratiser la danse et n'a pas eu assez de volonté sociale. Et c'est ainsi qu'ils vont proposer de nouvelles manières de penser l'œuvre chorégraphique en sortant du théâtre, en essayant de rapprocher l'art et la vie. Alors très souvent, les grandes idées des postmodernes, c'est que l'expérience est plus importante que le résultat. C'est l'idée d'être dans une pratique pluridisciplinaire qui mêle art visuel, musique, danse, mais pourquoi pas aussi pratique théâtrale. Ce sont des durées d'action artistique qui peuvent aller de quelques minutes à plusieurs heures, avec pourquoi pas la participation du public. Et puis, c'est l'idée de diversifier les environnements pour le corps en mouvement. Le corps en mouvement n'est pas forcément un corps qui travaille uniquement dans le studio de danse ou sur la scène d'un théâtre. Et enfin, ils ont l'idée d'une implication sociale et politique plus forte, se disant que la danse peut participer à un engagement actif. Trisha Brown va participer de ce mouvement-là, de la postmodern dance. Alors, elle est née au milieu des années 30, et au point de départ, elle a commencé la danse dans sa ville de naissance, Aberdeen, où elle va pratiquer toutes sortes d'esthétiques. Du ballet, des claquettes, du modern jazz, des techniques de danse moderne, comme la technique Graham ou la technique Limone, mais elle va aussi prendre des cours d'acrobatie, et puis des cours aussi de composition, notamment avec un musicien, Louis Horst, qui était le compositeur accompagnateur de Martha Graham. Nourrie de ses multiples cultures du corps et de ses multiples esthétiques, elle va chercher à partir de là sa propre voie. C'est-à-dire que dans toutes ces techniques de corps qu'elle a rencontrées, elle est en quête finalement d'autre chose et de l'élaboration de sa propre gestuelle, de sa propre manière de faire, qu'elle ne trouve pas dans les techniques déjà existantes. Elle s'intéresse beaucoup à l'improvisation. Et notamment à partir de 1959, elle va rejoindre les ateliers d'une femme qui vit sur la côte ouest américaine, à San Francisco. Elle rejoint les ateliers de Anna Halprin. Et c'est là qu'elle va rencontrer notamment un certain nombre de jeunes danseurs, dont Simone Forti, avec qui elle va travailler par la suite. Cette rencontre avec Anna Halprin est pour Trisha Brown, mais comme beaucoup d'autres jeunes gens de cette époque, décisive dans leur travail. Parce que l'enseignement d'Anna Halprin repose uniquement sur l'improvisation et le développement, on va dire, des capacités de mouvement par la conscience du corps et par la libre association d'idées. Chez Anna Halprin, vous le comprenez, il n'y a pas de modèle. Chacun est auteur de sa propre danse. Et elle utilise pour ça l'improvisation, mais toujours des systèmes d'improvisation cadrés, structurés. Chez Anna Halprin, il n'y a pas l'idée qu'on danse librement, sans se, comme on dirait aujourd'hui vulgairement, sans se prendre la tête. Non, on improvise en étant dans des structures, on essaye de répondre à ces règles. Elle va aussi, Anna Halprin, s'appuyer sur un autre endroit de travail qui s'appelle les tasks, qu'on peut traduire par des tâches banales à réaliser, des tâches quotidiennes, qui n'ont a priori rien d'héroïque, rien de virtuose, rien de technique, mais qui deviennent moteurs du mouvement. Alors Trisha Brown a une anecdote à ce sujet, elle raconte, je vais la citer, « Anna avait inventé cette chose qu'elle appelait une task dance, qui consistait à prendre un objet, comme un balai ou une boîte avec des magazines dedans, et elle nous disait, faites quelque chose avec ça. J'ai pris le balai, et j'ai commencé à balayer la terrasse où nous étions. Il y avait des fentes entre les lattes de bois, et je peux devenir très obsédée par certaines choses. J'étais là à balayer chaque fente du plancher, et j'avançais pas après pas. J'ai continué jusqu'à ce que le plancher soit impeccable. » Voilà, peut-être que dans vos activités quotidiennes des jours à venir, vous pourrez y penser. En tout cas, chez Anna Halprin, cette idée de développer des tâches à accomplir qui deviennent moteurs du mouvement, mais aussi, les quelques images que je vous présente là, le nomme une nouvelle relation à l'environnement, notamment à l'environnement extérieur, qu'il soit naturel ou urbain, et puis une implication sociale, écologique et politique qui va véritablement nourrir son travail. Suite à ces ateliers suivis auprès de Anna Halprin à la fin des années 50, en 1960, Trisha Brown traverse le pays pour venir s'installer à New York et pour continuer à travailler sur l'improvisation, notamment avec Simone Forti, qu'elle a rencontrée chez Halprin, à partir de structures d'improvisation simples. Un des exemples qui est connu des structures d'improvisation qu'elle utilisait à l'époque, c'est ce qui était nommé le contact violent, c'est-à-dire des improvisations où il y avait une structure d'improvisation qui visait à bloquer un danseur lancé en pleine vitesse, ou alors à esquiver un danseur pour éviter la collision. Donc cette idée d'être voilà, dans des formes d'improvisation à partir d'actions du corps. Durant cette année 1960, elle va aussi étudier au studio Cunningham, donc chez Merce Cunningham, à New York, et au sein notamment de cours qui ont lieu dans ce studio, qui sont les ateliers de Robert Dunne. Robert Dunne, c'est un personnage particulier au sein du studio Cunningham, car c'est un musicien, pédagogue, diplômé plutôt en composition et théorie musicale, et ces ateliers vont énormément marquer Trisha Brown. Même si elle va aussi conserver des choses du travail de Cunningham, dont elle va prendre des cours, l'idée de la collaboration, par exemple, avec d'autres artistes. Mais c'est vraiment les ateliers de Robert Dunne qui vont la marquer fortement. Elle y participe avec d'autres jeunes gens danseurs, mais aussi avec des plasticiens, des musiciens. C'est un atelier très ouvert. Et c'est John Cage qui avait demandé à Robert Dunne d'ouvrir cet atelier de composition, qui on va dire, qui était établi sur un certain nombre de règles. Par exemple, il n'y avait pas de jugement de valeur sur ce qui était produit dans cet atelier. Il n'y avait pas de choses bien ou mal. Il n'y avait pas de normes chorégraphiques à respecter. Et il n'y avait pas de relation à la musique à absolument tenir, un peu dans l'idée de Kelch Cunningham, d'être dans l'émancipation de la musique et de la danse. Donc un certain nombre de conventions qui étaient repoussées assez loin pour réfléchir autrement à la composition. Les recherches dans l'atelier de Robert Dunne étaient tournées vers la question de la structure d'une pièce, la structure d'une danse, à partir notamment de l'improvisation, mais aussi de l'aléatoire, de l'indétermination. Il guidait, plus qu'il ne montrait les choses, Robert Dunne guidait ses étudiants dans des explorations avec des discussions, des analyses, des questions du type quelles sont les règles qui ont été proposées ici, quelle est la structure qu'on vient de voir. Et puis avec des consignes très minimales, je donne toujours les deux mêmes exemples parce que j'en suis sûre. Par exemple, il proposait de faire une danse à propos de rien de spécial. Ou de faire une danse de 30 minutes en 5 minutes. Effectivement, cet exemple est très criant. Comment composer une danse de 30 minutes en 5 minutes ? Si on ne compose pas une structure, on ne peut pas écrire la danse. On ne peut pas écrire 30 minutes de danse en 5 minutes si on n'a pas de structure. Et ça, ça va énormément fournir des outils à ces deux questions de Tricia Brown. Qu'est-ce que je ne connais pas et quelle structure chorégraphique donner à cette question? Et c'est à partir de ces deux premiers faits, le travail avec Alprine, le travail avec Robert Dunne, qu'un certain nombre de ces jeunes étudiants vont continuer à travailler à New York, non pas en fondant une compagnie, mais en se réunissant à partir de 1962 dans un lieu qui s'appelle le Johnson Memorial Church, et ils vont fonder un collectif, ce Johnson Dance Theater. Et c'est ainsi qu'un collectif naît à New York, dont Tricia Brown fait partie, avec d'autres danseurs comme Yvonne Reiner, comme Steve Paxton, comme David Gordon, comme Simone Forti, avec l'idée non pas de monter une compagnie avec un chorégraphe, mais bien d'être dans un mode collectif de fonctionnement, un mode démocratique de fonctionnement pour un groupe pluridisciplinaire. Là, j'ai choisi de vous montrer en image juste une image d'une pièce de Tricia Brown qui s'appelle « Homemade », mais aussi un projet de Robert Rauschenberg, qui est un plasticien, un projet qui s'appelait Pelican, ou encore, comme vous le voyez, une affiche signée d'un artiste minimaliste très connu aujourd'hui, qui s'appelle Robert Morris. Tous travaillaient ensemble, finalement, non pas à créer des œuvres, mais bien à participer à des ateliers hebdomadaires qui donnaient lieu parfois à des présentations publiques, des, on dirait, work in progress, où rien n'était figé, mais au sein desquels la magie, on va dire l'illusion propre au spectacle sur scène, était rejetée pour plutôt ou au profit d'une exploration du quotidien. Marcher, s'asseoir, saisir un objet, lever un bras, soulever un partenaire. Il s'agissait, vous le comprenez, plutôt de faire. Faire et non pas signifier, être dans l'action du faire, s'appuyer sur l'improvisation, l'aléatoire, l'analyse des structures telles qu'ils avaient déjà été largement baignés durant quelques mois. Et ces principes vont vraiment devenir prédominants à l'époque. Prédominants à l'époque et assez originaux pour l'époque. Par exemple, la répétition d'unités semblables, ce qui pourrait paraître ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe si on répète des unités semblables ? L'accumulation progressive d'un geste, la composition géométrique ou la composition arithmétique. Tous ces questionnements étaient très proches de ce qui agitait aussi des préoccupations d'artistes des arts visuels new-yorkais de l'époque. On peut penser notamment au mouvement minimaliste, au néo-dada, à l'art conceptuel. On était vraiment dans les mêmes types de recherches. Les premières pièces de Tricia Brown qui sont présentées au Johnson sont axées sur des improvisations structurées. un corps piéton, une danse objective, expérimentale, en essayant de vraiment travailler sur des actions simples et une présence réelle du ici et maintenant. Être véritablement dans l'acte que je suis en train de produire. D'ailleurs, elle a une citation assez amusante à ce sujet à propos d'une pièce qu'elle a créée qui s'appelait A String. Elle explique « Jusqu'à cette époque, les danseurs dans la compagnie se pliaient à une technique rigoureuse et l'un de leurs maniérismes était de garder un regard inexpressif tout en se déchaînant sous les yeux du spectateur. Beaucoup se cachaient ainsi du public. Nous connaissons tous ce truc et nous en parlions entre nous. J'ai décidé de faire face vraiment, à mon public. Je dansais si près des spectateurs que j'aurais pu les toucher et je fixais chaque personne l'une après l'autre, sans rien de théâtral ni de provocateur. Je les regardais comme on regarde les passagers d'un autobus, sans perdre un détail. » Donc être véritablement dans le ici et maintenant. La question qu'on peut se poser à partir de là, de ce que je vous décris des choses, c'est où commence la danse ? Où est-ce qu'on peut commencer à imaginer qu'un mouvement soit un mouvement de danse ? Pour répondre à cette question, Trisha Brown va rapidement mettre en œuvre des cycles de travail. Travailler plusieurs années, plusieurs actions autour d'une même question. Un des premiers cycles importants va être le cycle qui s'appelle « Equipment Pieces », pièces d'équipement, dont Plains de 1968 est la première, le premier projet, la première pièce, on va dire, anti-gravitationnelle, c'est-à-dire que c'est la situation qui indique comment danser. Les danseurs évoluent sur un mur de trous que les pieds et les mains utilisent comme accroche. Et à partir de là, ce sont ces trous et la possibilité du déplacement sur ce mur qui permet de mettre en place le possible mouvement dansé, la possible danse. Ce cycle va durer plusieurs années. Je vais vous montrer quelques clichés. J'ai choisi plutôt de vous en montrer des photographies. Photographies de ces Equipment Pieces qui ont eu lieu entre 1968 et 1974. Une série d'expérimentations, de mouvements élémentaires. Vous le comprenez même sur les images, je pense, en fixe. Il s'agit, je vais dire entre guillemets, simplement de marcher. Simplement de marcher, mais sur des supports non horizontaux, questionnant donc le système gravitaire du danseur et le rapport à la pesanteur. Pour cela, elle utilise divers supports externes, des cordes, des poulies, des boudriers, des rails, des câbles, pour permettre aux danseurs d'avoir cette expérience du corps en tension pour lutter contre la gravité. Vous le remarquez aussi déjà dans ces deux premiers clichés qui sont très différents parce que celui de gauche peut vous paraître beaucoup plus, impressionnant que le second. Remarquez les titres. « Man walking down the side of a building »,« Homme descendant la paroi d'un immeuble »,« Walking on the wall »,« Marcher sur les murs ». Le titre même de l'action décrit l'action. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de poétique, il n'y a que du concret que d'être dans ces pièces d'équipement. Alors il y en a toute une série, je peux vous en montrer peut-être deux autres images. Après le « Man walking down the side of a building »,« Woman walking down a ladder », donc « Femme descendant un réservoir », ou encore « Leaning Duets », qui là est une action qui a lieu au sol. Alors vous allez me dire, mais là c'est horizontal. Oui et non, car les danseurs sont obligés d'essayer de marcher sur une même ligne en se tenant par la main ou par un objet qui permet d'accroître le V qui les sépare. Ils sont en déséquilibre l'un avec l'autre et ils essayent de trouver un équilibre commun. Donc un certain nombre de pièces qui permettent d'expérimenter cette apesanteur et puis cette pesanteur et puis d'expérimenter la force nécessaire à pouvoir marcher dans d'autres situations que celles qu'on connaît. Cette période correspond au moment de la création de la compagnie de Trisha Brown, 1970. Même si parallèlement à la création de cette compagnie, elle va continuer à poursuivre ses expériences collectives dans des rassemblements d'improvisation, comme par exemple au sein du Grand Union. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais elle fonde sa compagnie en 1970. Et elle va continuer au sein de sa compagnie à développer des cycles. des cycles de recherche, je ne vais pas tous les nommer, mais qui reprennent toujours ces questions fondamentales. Où commence la danse? Qu'est-ce que je ne connais pas? Quelle structure chorégraphique donner à cette question? Comme Equipment Pieces, je vais vous présenter un deuxième cycle qui est le cycle Accumulation. Le cycle Accumulation va inscrire le travail de Tricia Brown en dehors du théâtre. Des propositions, on va dire, in situ, dans des lieux alors inhabituels, des parcs publics, des parkings, des toits de building, à partir de l'idée qu'elle va essayer de créer des danses qui sont reliées à des systèmes mathématiques, accumuler du mouvement dans une temporalité qui met en avant un flux continu du mouvement dans un corps où il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de partie plus importante qu'une autre. C'est ce qu'on va appeler le cycle d'accumulation. Alors, je vais vous en présenter une première, une de 1972 qui s'appelle Primary Accumulation. Je vais la lancer. Et on va peut-être juste baisser un petit peu le son. Je ne sais pas si moi, je pense que je peux... Ah non, ça ne va pas du tout si ça commence pendant que... Voilà. Je la reprends. Une accumulation mathématique. 1. 1 plus 2. 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Je vais m'arrêter là. Mais on pourrait aller jusqu'à 30. 30 mouvements accumulés, dont les deux derniers permettent de pivoter à 45 degrés, de reprendre la phrase 4 fois dans 4 directions différentes. Donc à la fin de la série, le danseur a fait un tour sur lui-même. Les mouvements, vous le remarquez, sont calmes, sans affect, sans signification. Une chaîne de gestes qui se répète à un rythme égal, on pourrait dire quasiment quasi hypnotique. Tricia Brown dit « accumuler tout simplement du mouvement ». Au niveau chorégraphique, c'est comme trouver une sorte de degré zéro, de degré minimal dans ce qui peut être la composition. De ce phrasé original, on va dire, va découler ensuite des groupes. Elle va faire des groupes d'accumulation, des groupes de cette première accumulation, c'est-à-dire accumuler plusieurs corps à la même tâche, à l'unisson, dans des environnements variés. Là, je vous montre, par exemple, dans des jardins publics ou à la surface des temps, mais ça peut être aussi dans des lofts, dans des hangars, etc. Donc, un cycle qui travaille sur ce mouvement répété et accumulé. Avec la fin des années 70 et jusqu'aux années 1990, il va y avoir là un certain nombre de bascules. Après avoir travaillé différents cycles, plutôt en extérieur, on va avoir deux choses qui arrivent. La première, c'est l'exploration d'un mouvement qui se dirait pur, non fonctionnel, non figuratif, j'y reviendrai. Et puis un retour ou une arrivée, plutôt, dans le lieu théâtre. Une arrivée dans le lieu théâtre, à partir de la fin de ces années 70. En effet, Tricia Brown dresse un constat à la fin des années 70 qu'il y aurait pour elle trois types de mouvements. Premier type de mouvement, on en a parlé, les actions quotidiennes à l'état brut, marcher, s'incliner, s'allonger, courir, sauter, tomber. Un deuxième type de mouvement, qui serait ce qu'elle appelle le mouvement pur, c'est-à-dire le mouvement non fonctionnel et non figuratif. Elle dit le mouvement des actions corporelles mécaniques, telles que se courber, se raidir ou faire des rotations, peuvent être des mouvements purs, à condition que le contexte soit neutre. Ce sont donc des mouvements qui ne sont rattachés à aucun but concret, culturellement lisible, et qui n'ont aucune connotation symbolique ou figurative. Et enfin, un troisième type de mouvement, des gestes dotés d'une signification personnelle pour Trisha Brown, c'est-à-dire que pour elle, ils évoquent une image, ils évoquent un souvenir, mais qui n'est pas forcément, je dirais, un sens clair pour le spectateur. Nous n'en avons pas forcément les clés en tant que spectateur. Et c'est à partir de ces trois types de mouvements que va se construire véritablement ce style Trisha Brown de la fin des années 70 et de la suite jusqu'à cette entrée dans le théâtre. Je vais vous présenter peut-être une des pièces les plus connues de Trisha Brown de la fin de ses années 70, c'est Water Motor, une pièce de 1978, un solo. Alors là aussi, je vais... Un solo en silence, une suite de gestes syncopés, de positions qui figurent toutes un rapport à l'eau, comme le titre l'indique, le moteur de l'eau, les flots, la chute d'eau, la plongée éclaboussée, les gouttes d'eau, etc. Une danse où on ressent un grand relâchement, une grande fluidité. Puis vous le remarquez peut-être, une danse aussi très complexe dans le corps. Énormément de circulation dans le corps. Une grande rapidité aussi parfois. Et peut-être le préciser, ce n'est pas une improvisation. C'est une danse écrite. Une danse de 2 minutes et demie, et vous sentez bien là, ma gêne, pour la couper, il n'y a aucun moment favorable. Hein ? Un flux continu qui ne cesse jamais, qui prend tout l'espace, qui rappelle ce que disait Trisha Brown au niveau du mouvement pur, cette idée qu'il ne doit être ni figuratif, ni fonctionnel. Si ce n'est qu'il peut nous évoquer la fluidité de l'eau, c'est le projet de ce solo. Et puis un contexte neutre, effectivement, pour ce film, une simple tenue de travail, et puis un espace qu'on peut imaginer être un studio de répétition ou une scène, mais en tout cas qui ne donne aucune indication et qui laisse véritablement la danse au centre de notre attention. La fin des années 70, c'est donc un grand moment pour Trisha Brown de travail sur ce mouvement pur, sur trouver des structures de phrasés chorégraphiques et comment on peut improviser avec ces phrasés. Et puis c'est le moment aussi où elle va commencer à associer la parole à cela et à mêler les cycles, c'est-à-dire à essayer d'intégrer, à essayer d'imbriquer les cycles entre eux pour que ça complexifie encore le jeu. Deux cycles qui paraissaient très simples, on va arriver à des choses qui deviennent beaucoup plus complexes à réaliser. Là, je vais vous montrer un extrait, le début d'un film qui a été réalisé autour d'une pièce qui s'appelle Accumulation with Talking plus Water Motor. Donc, si vous avez bien suivi par rapport à ce que je vous ai montré avant, nous allons être dans une accumulation avec de la parole et en utilisant la gestuelle de Water Motor. Donc l'accumulation va devenir bien plus complexe. J'ai choisi de vous montrer un court extrait du début du film.
Start. Started. Starting. To talk while doing this dance. Is like opening a front-loading washing machine while doing a load of typewriters. The first time I performed this dance, it was four and a half minutes long, to the Grateful Dead. John's band. The next time, it was 55 minutes long, and in silence.
Vous l'avez compris, souvent la parole, même si vous êtes peut-être pas tous anglophones, mais on comprend facilement quand même deux choses, la parole souvent vient ramener des souvenirs. Là, par exemple, elle dit la première fois que j'ai dansé cette danse, elle durait quelques minutes, après plusieurs dizaines de minutes. Enfin, il y a vraiment cette idée de ramener du souvenir de danses qui ont été effectuées avant et comment ces paroles viennent aussi donner une autre signification à ce qui est en train de se faire. Donc, imbriquer les cycles entre eux pour que cela devienne de plus en plus complexe. Au même moment, toute fin des années 70, je vous le disais, c'est là qu'elle va commencer véritablement à faire des projets au sein du lieu théâtre pour en problématiser plusieurs choses, notamment la représentation et qu'est-ce que je peux mettre en jeu sur scène. Comment est-ce que cette écriture-là peut exister sur scène? Elle va réaliser aussi bien des pièces scéniques que des opéras. Et ces projets feront toujours appel à la collaboration, notamment avec des plasticiens. Et le programme de ce soir sera dans cette veine-là, collaboration avec des plasticiens, notamment Robert Rauschenberg, Kujiko Nakaya, Donald Judd, Nancy Graves. Donc un certain nombre de collaborateurs réguliers, comme ça, pour le travail visuel autour de la danse et pour la danse. Et puis à la même période, alors qu'elle a travaillé quasiment tout le temps en silence, apparaissent des collaborations avec des musiciens, notamment avec Robert Eshley ou encore Laurie Anderson, que vous connaissez peut-être de nom. Et elle trouve dans ce rapport à la musique un nouveau terrain de jeu qui va être la structure musicale. Comment la structure musicale, et notamment la structure musicale classique, va pouvoir être un nouveau défi pour elle, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va pouvoir transposer les principes musicaux en caractère, on va dire, pertinent pour la danse. Donc ça devient aussi un nouveau terrain de jeu. Donc intérêt pour les arts visuels, intérêt pour la musique dans des collaborations pour ces pièces scéniques. L'intérêt pour les arts visuels, Trisha Brown l'a toujours eu. Elle a toujours été très intéressée et très attirée par la peinture et les arts visuels en général. Elle a longtemps hésité d'ailleurs entre danse et arts visuels. Elle a fait depuis beaucoup de dessins. On a des expositions du travail visuel de Trisha Brown. Elle compose ses chorégraphies d'ailleurs à la manière, je dirais, ou de manière à donner une lisibilité maximale de la structure qui les anime. Et cette structure, elle est graphique. Elle est graphique, elle travaille sur des dessins géométriques, des carrés dans lesquels sont tracées d'autres lignes, notamment, pourquoi pas, des cercles. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de ces dessins qui éclairent à la fois la structure, je dirais, de composition spatiale de la danse en général, mais qui peut éclairer aussi la structure de composition de la danse dans le corps lui-même. Elle dit « c'est la base de mon mouvement ». Le cercle, le demi-cercle, les diagonales dans les angles, la verticale, l'horizontale. C'est ainsi que je distribue le mouvement dans le corps et que j'organise les corps dans l'espace. Je déplace le corps comme je déplacerais le crayon. Et là, dans ces quelques dessins, vous pouvez imaginer effectivement comment est-ce que ce travail graphique peut être un support pour elle pour mieux comprendre les enjeux à la fois du travail dans le corps du danseur et dans le corps de ses danseurs, mais aussi pour des principes d'improvisation dans le corps, mais aussi comment ça peut donner des enjeux de structure à la danse elle-même. Avec cette fin des années 70, début des années 80, trois pièces vont véritablement être peut-être majeures dans le travail de Trisha Brown. Glassaille d'écueil de 1979, dont je vais parler ensuite. Opal Loop, Cloud Installation en 80 et Set and Reset en 1983. Ce sont trois pièces très importantes parce qu'elles vont marquer un tournant dans la reconnaissance de son travail, la reconnaissance notamment internationale de son travail en Europe et tout particulièrement en France. Et ce sont des pièces qui sont conçues pour les scènes de théâtre, qui peuvent les accueillir et qui toutes bénéficient d'un décor signé par un plasticien. Robert Rauschenberg va signer le décor de Glassaille d'écueil et de Set and Reset. Fujiko Nakaya va signer celui de Opal Loop, Cloud Installation. Et c'est véritablement à partir de ce moment-là que la compagnie de Trisha Brown va avoir une renommée internationale et que donc elle va aussi pouvoir complètement affirmer sa renommée aux États-Unis. C'est notamment par cette reconnaissance internationale qu'ensuite elle va aussi avoir une reconnaissance pleine et entière dans son propre pays. La France n'y est pas pour rien. De nombreux festivals l'ont accueillie. Le festival d'Aix, je pense, au festival de Montpellier aussi. Le festival d'automne à Paris ont été vraiment des porteurs de ces projets dès la fin des années 70, début des années 80. Et puis on a eu aussi un certain nombre de créations de la Trisha Brown Company en France, avec le CNDC d'Angers, par exemple, ou encore avec la compagnie de Dominique Bagoué, pour donner juste quelques idées. Donc il y a un vrai lien d'histoire, d'amitié, hein, entre cette compagnie et sa réception en France. Alors pour cette pièce de 1979, en collaboration avec Robert Rauschenberg, cette première pièce créée pour l'espace théâtral, traditionnel, on va dire, le choix a été fait pour Trisha Brown et Robert Rauschenberg de penser dans ces décors de manière indépendante. Chacun a travaillé de son côté. Vous pouvez penser là un peu hein, au travail peut-être mené à cet endroit de Cunningham qui travaillait toujours de cette manière-là. Donc, chacun pense les choses de son côté. Rauschenberg va choisir de faire défiler quasiment, je crois, 200 photographies noir et blanc en fond de scène. Et puis devant va être jouée la danse de Trisha Brown, une danse faite de mouvements glissés, d'accélération, de saturation, dont je vais vous montrer un extrait. Et là, on a véritablement ce qu'on va appeler la signature Trisha Brown dans le corps qui est complètement présente. Danse déliée qui répartit librement le mouvement dans le corps. On peut avoir des accélérations, des saturations dans la répétition, des unissons. Mais vous le comprenez, c'est bien pour ça que je me permets de parler, c'est encore en silence. Laisser à la libre interprétation du spectateur la relation qu'il fait entre les images qui défilent en fond de scène et les formes que prennent les mouvements dansés. en avant-scène. Un autre projet, l'année d'après, qui a beaucoup marqué le travail, cette mise en jeu, cette mise en avant sur la scène internationale, c'est Opal Loop, Cloud Installation, 72-503 de 1980, en collaboration avec Fujiko Nakaya. Un projet où l'idée était que Trisha Brown avait proposé des phrases chorégraphiques en boucle, d'où le titre, hein, la loupe, c'est-à-dire qu'on a des phrases chorégraphiques en boucle, avec des déclinaisons, et ces déclinaisons sont soumises à l'improvisation des danseurs. C'est-à-dire qu'on a une écriture, on a une structure, on a des phrasés, et puis les danseurs à l'intérieur de ça peuvent se permettre de décliner par l'improvisation la structure qui est donnée. Elle dit à ce sujet, c'est comme si vous jetiez un caillou dans un banc de petits poissons, il se disperse instantanément, puis se rassemble à nouveau. Cette idée sans cesse de trouver des organisations désorganisées par le biais de l'improvisation et de la structure. C'est accentué par le travail plastique. Alors là, je vous montre une captation qui est un peu plus récente, qui a eu lieu à New York en 2010. Mais le choix plastique de décor, vous le remarquez, c'est un espèce de brouillard mouvant, lui aussi, qui sans cesse se déplace sur scène et qui finalement rajoute, je dirais, la question de l'apparition et de la disparition des corps, l'apparition et la disparition de ces phrasés, de ces déclinaisons de phrasés au sein de l'espace scénique. Vous y voyez aussi certainement apparaître beaucoup de mouvements abstraits, non figuratifs, et parfois, tel un petit accident, un geste qui semble plus vous signifier pour vous quelque chose. Cette idée que voilà, chaque spectateur est aussi amené à confronter son regard avec cette danse qui parfois est remplie d'humour chez eux. Chez Trisha Brown, il y a vraiment l'idée que on peut injecter parfois des gestes qui font sourire, qui animent l'imaginaire. Avec cette entrée dans le théâtre, on a à nouveau des cycles qui vont apparaître. On ne s'arrête pas pour autant de travailler sur des thématiques. Je vais les nommer peut-être en quelques mots. Un premier cycle au début des années 80 qui va être nommé par un critique d'art qui s'appelle Klaus Kerstes, instabilité moléculaire, dans l'idée que ce sont des projets scéniques dont Seth Henry Seth fait partie, où Trisha Brown travaille plutôt sur la nature imprévisible, sur la fluidité du mouvement, sur la nature peut-être tumultueuse du mouvement. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans Seth Henry Seth, c'est très tumultueux, mais à partir d'une chose très simple, c'est que dans Seth Henry Seth, il n'y a qu'une phrase chorégraphique qui est soumise sans cesse à l'improvisation des danseurs. Donc une structure qui permet de trouver une instabilité dans ce jeu de mots d'instabilité moléculaire qui est pris comme titre de ce cycle. Un peu plus tardivement, avec la fin des années 80, on va avoir le cycle que l'on nomme héroïque, qui est un cycle de travail où là, Trisha Brown va plus s'intéresser aux limites physiques du corps, à la virtuosité, à l'engagement musculaire des danseurs, et puis aussi à la question de l'exploration de mouvements plus sexués. Est-ce qu'il y aurait des mouvements sexués, hommes, femmes ? Newark est la première pièce de ce cycle qui engage effectivement une danse peut-être plus tonique, plus musculaire. Et puis on voit apparaître avec les années 90 un cycle qui est nommé Back to Zero, revenir au zéro, un cycle autour qu'on définit souvent dans les ouvrages sur Tréchard Brown que vous pouvez lire autour du mouvement non anticipé. Cette idée qu'on reviendrait à une fugacité, qu'on revient à l'immobilité, au ralenti, aux hésitations. Là, c'est pour le coup une danse beaucoup moins musculaire. Une danse avec une autre énergie qui est déployée dans ce cycle. Donc un certain nombre de cycles qui jalonnent les années 80 puis 90. Et avec les années 90, on voit apparaître un cycle autour de la musique, véritablement, et notamment autour de la musique classique. Et une des pièces du programme ce soir, L'amour au théâtre, sera véritablement en lien avec ce cycle autour de la musique classique, puisque c'est une pièce sur des extraits d'Hippolyte et Aricy de Jean-Philippe Rameau. Donc là, on est très très proche de ce rapport à la structure musicale, comment la structure musicale peut apporter, peut enrichir la structure chorégraphique. Et puis, ce sont les périodes aussi où Tréchard Brown va collaborer à des opéras, et notamment à l'Orfeo de Monteverdi en 1998, où Tréchard Brown va signer la mise en scène et, je dirais, la chorégraphie. Et c'est ainsi qu'elle va signer un certain nombre d'opéras. On peut penser aussi à Carmen. Et ça va être pour elle un tout autre exercice encore que celui des pièces chorégraphiques. Avec le cycle musique, elle va aussi s'intéresser à la musique de Jean-Sébastien Bach. Et puis, elle va comme ça sans cesse renouveler les pièces à partir de la fin des années 90, début des années 2000, à partir des collaborations avec des musiciens et des compositeurs contemporains. Parfois avec des compositeurs de musique classique. En tout cas, je dirais, peut-être pour revenir sur une image voilà, qu'on a pu voir tout à l'heure, voilà, sans cesse, le travail de Tréchard Brown, quel que soit le cycle, le style de Tréchard Brown va être très vite, dans ces années-là, reconnaissable, je dirais, entre mille. C'est un corps qui est toujours en mouvement, vous le verrez ce soir, mais dans un mouvement qui est, on va dire, très clair, très limpide dans la manière dont il se distribue dans le corps. C'est absolument pas un mouvement qui va vous paraître brouillon. C'est un mouvement dont on voit toute la circulation. Il y a une grande importance donnée aux pieds, aux appuis. C'est comme si c'était des pieds que partait toute l'ondulation ensuite qui va traverser le corps, une sorte d'impulsion qui va ensuite irradier, je dirais, l'ensemble de l'organisme du danseur. Et puis, on a un corps qui est sans cesse parcouru de flux, qui donne des directions, des contre-directions. Parfois, ça s'oppose, parfois, ça se contredit. Et puis, parfois, on a aussi des petits accidents, des rebonds, des relâchés brusques qui permettent de contrebalancer, je dirais, la fluidité du mouvement. Et comme je vous le disais, vous verrez, il y a souvent, enfin n'oubliez pas ça en tout cas, souvent de l'humour, de la dérision dans la danse de Tréchard Brown, même si le mouvement, vous l'avez compris, en lui-même n'a rien d'humoristique ou de figuratif. Mais ce qu'elle emploie parfois peut nous amener, je dirais, à sourire. Peut-être une dernière pièce que je voulais évoquer ce soir, c'est en 2002, It's a Draw, qui a été créée à Montpellier, au Théâtre du Hangar à Montpellier, où Tréchard Brown danse elle-même. C'est une expérience simultanée de la danse et du dessin. Des feuilles de dessin sont posées au sol. Tréchard Brown a dans ses mains et dans ses orteils des fusains et des craies. Et donc, elle se déplace, elle marche, elle tombe, elle roule sur ses feuilles. Et donc, simultanément, instantanément, ses feuilles sont marquées par son passage. Donc, elle est dans une action où à la fois elle danse son trait dessiné, et en même temps, elle dessine son mouvement. Et je crois que ça, c'est une des pièces qui montre bien son intérêt encore en 2002. pour l'expérimentation, pour l'action ici et maintenant, pour le fait que rien n'est jamais fini dans la danse ou que tout advient au moment où je le fais. En 2009, la Trisha Brown Company va créer les archives Trisha Brown qui vont véritablement essayer de recouvrir et de recenser tous les éléments iconographiques, textuels, vidéos que la compagnie pouvait regrouper autour du travail de Trisha Brown. Trisha Brown va quitter la direction de la compagnie en 2013 et c'est le conseil de la compagnie va nommer deux danseuses de longue date de Trisha Brown comme directrice artistique de la compagnie. Il s'agit de Diane Madden et de Caroline Lucas, qui sont encore aujourd'hui les directrices artistiques associées de la compagnie et qui ont pour mandat, évidemment, de présenter les danses de Trisha Brown avec la compagnie, mais aussi de développer des initiatives de médiation, des expositions, de faire vivre finalement ce travail et de faire partager, je dirais, la vision qu'avait Trisha Brown de la danse et du chorégraphique. Peut-être je finirai justement sur une citation de Diane Madden, une citation de 2013 au moment où elle a pris la co-direction de son travail. Elle disait « En dansant avec Trisha, on apprend à utiliser le mouvement pour régler les difficultés, les défis de la structure et la liberté. Mon désir de réaliser ce qu'elle demande ne faiblit pas depuis 33 ans. Danser avec elle enseigne à se fier au processus, même sans connaître le résultat final. C'est ce qui nous guide à présent. » Et je crois que c'est une belle citation par rapport à ce que vous allez pouvoir voir ce soir, ces trois pièces, ce programme composé, avec une compagnie renouvelée, puisqu'il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais que les danseurs de la compagnie que vous verrez ce soir sont des jeunes danseurs qui sont arrivés depuis, il me semble, 3 ans dans la compagnie. Donc c'est aussi un leg qui est passé de danseur à danseur sur ce répertoire qui est un répertoire, vous l'avez compris, comme on les appelle, les early works, les premiers travaux, ce sont des pièces des années 60 jusqu'aux travaux les plus récents de la fin des années 2000. Si je compte bien, vous voyez, c'est 40 ans de travail qui est légué et qui continue à vivre au sein de cette compagnie. Pour finir aussi ce soir, je voulais juste dire deux choses. La première, c'est que vous avez peut-être remarqué, j'ai fait un choix assez drastique qui n'est pas habituel. On n'a pas entendu une note de musique. Et vous pouvez vous dire, elle est quand même un peu raide, Céline Roux, ce soir. J'ai fait le choix délibéré que vous découvriez cette danse dans sa relation à la musique sur scène et pas que je vous en montre des extraits vidéo. C'est-à-dire que on a déjà découvert plein de choses sur les structures de la danse, plein de choses sur la fluidité de la danse, plein de choses sur les rebonds, sur les oppositions, sur les directions, sur les dessins qui permettent de travailler cette danse. Je souhaitais que vous découvriez seul le rapport à la structure musicale, parce que je pense que ça sera une vraie découverte, d'autant plus que dans le programme, ce sont 3 univers musicaux très différents. Et ça va être très appréciable pour vous. Et enfin, j'ai choisi de finir aussi avec ce dessin de Trisha Brown. Vous reconnaissez assez facilement, ce sont des pieds. Simplement pour vous dire aussi, si vous y pensez durant ces 3 pièces, essayez parfois de regarder les appuis et de voir comment c'est à partir de ces pieds que le mouvement irradie dans le corps, que le mouvement a une vague qui prend le corps et qui fait que le mouvement brownien est vraiment très très spécifique et qu'il peut être certainement reconnu très rapidement lorsqu'on a pu déjà avoir la chance de le découvrir et de le voir dans plusieurs configurations. Donc voilà, je sais que ça pouvait être un choix un peu vraiment dur pour vous, mais je le trouvais intéressant en tout cas pour que vous ayez le plaisir de découvrir cette gestuelle et les structures chorégraphiques qui la régissent dans son rapport à la musique. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et vous dire qu'on se retrouvera au mois de mars autour de toute autre chose, autour de la question de la danse flamenco. Donc voilà, je vous invite à regarder le programme. Je crois que c'est autour du 17 mars ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup et je vous souhaite un très beau spectacle.